Il y a 172 ans, le 24 septembre 1853, la France prenait possession de la Nouvelle-Calédonie. Le 24 septembre, jour férié sur le territoire pour la fête de la citoyenneté. Un 24 septembre 2025 marqué par la déclaration unitaire du nouveau FLNKS, du MNIS, de l'EPKNC et du Sénat coutumier. Ils réaffirment leur volonté de voir accéder le pays à la pleine souveraineté. Le SMTU annonce des changements sur le réseau de transport en commun à partir du 1er octobre. Yannick Fèvre, le nouveau directeur du SMTU, était notre invité dans le journal de la mi-journée. Emmanuel Macron et Donald Trump se sont rencontrés en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Sans surprise, leur approche de la situation au Proche-Orient est diamétralement opposée. France Télévisions épinglée par la Cour des comptes avec un déficit de plus de 80 millions d'euros entre 2017 et 2024. La Cour des comptes appelle à des réformes structurelles majeures. Et puis le Calédonien Axel Raymond met à nouveau le cap sur l'Afrique du Sud. Les mondiaux de force athlétique se dérouleront à Cape Town. Ce sera au mois d'octobre. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Avant de développer tous ces titres, revenons sur cette importante coupure de courant. C'était en début d'après-midi sur le Grand Nouméa. La panne a été détectée. Il s'agit d'un défaut technique au poste relais 33 000 volts situé à Ducos. Conformément au dispositif de sécurité, les protections du réseau se sont déclenchées pour préserver les installations électriques. Grâce à l'intervention rapide des équipes d'Enercal et de EC, l'ensemble des clients sur les communes de Dimbéa, Païta, Nouméa et Mondor a pu être rapidement réalimenté. Les précisions de Laure Leroy, la directrice des opérations de EC.
On a eu une coupure ce midi, à midi 26 exactement, qui a concerné environ 48 200 clients du Grand Nouméa côté sur la partie EC, donc avec des clients de Nouméa, Dimbéa et Mondor. 48 200 clients, c'est une majorité de foyers et certains professionnels également qui ont été coupés. La coupure a concerné 3 points de livraison, les 2 points de livraison à Ducos et 1 point de livraison à Boulari, donc voilà, qui ont impacté une grosse partie du Grand Nouméa.
Une coupure de courant qui a duré plus d'une heure et demie dans certains secteurs de Nouméa et du Grand Nouméa. Nous sommes le 24 septembre, un jour férié en Nouvelle-Calédonie pour la fête de la citoyenneté. Elle commémore le rattachement de la Nouvelle-Calédonie à la France le 24 septembre 1853. Retour 172 ans en arrière avec l'historien Luc Steinmetz.
Amiral Février des Pointes a pris possession de la Nouvelle-Calédonie au nom de l'empereur Napoléon III, qui était à l'époque à la tête d'un régime politique qui s'appelait le Second Empire. Ça veut dire que ce jour-là, la Nouvelle-Calédonie est devenue française. C'est important de dire que quelques jours après, à l'île des Pins, ce même amiral Février des Pointes a signé également un acte de prise de possession et de reconnaissance de souveraineté avec la chefferie Vendégou de Cougnet, de l'île des Pins. Et progressivement, après, dans les semaines ou les mois qui ont suivi, des actes de prise de possession et de reconnaissance de souveraineté française ont été également signés avec d'autres chefs sur la Grande Terre, que ce soit sur la côte Est ou même sur la côte Ouest, dans la région de Nouméa, etc. On a tendance à occulter un petit peu les autres petites déclarations de souveraineté qui ont été également signées.
Le 24 septembre sera ensuite commémoré en 1903 pour le cinquantenaire, puis en 1953, 7 ans après la fin du régime de l'indigénat.
Ce sont les grandes fêtes du centenaire. Et on peut dire vraiment que toutes les communautés, et en particulier la communauté kanak, va participer dans la joie et dans la communion à ces festivités du centenaire. Moi, j'étais petit à l'époque, j'avais 6-7 ans, mais je m'en rappelle encore, et puis éventuellement les images, les reportages à la télé ou bien dans les journaux, ça le prouve encore. Ça a vraiment été, ce 24 septembre 1953, une fête communielle. Et il suffit de se rappeler du discours prononcé à cette époque par Maurice Lenormand, le député Union Calédonienne de la Nouvelle-Calédonie, qui avait été élu 2 ans auparavant. Eh bien, il définit le lien qui unit la Nouvelle-Calédonie à la France comme un lien indéfectible. Ça veut dire qu'on ne peut pas défaire, qu'on ne peut pas rompre.
5 ans plus tard, lors du référendum de 1958, le général de Gaulle soumet au vote du peuple l'approbation de la Constitution de la Ve République. Pour l'ensemble des Outre-mer, ce vote a une double portée. La validation de la Constitution d'un côté et de l'autre, l'attachement à la France. Si le territoire avait voté non, alors il serait immédiatement devenu indépendant. Ce ne fut pas le cas, bien au contraire, rappelle l'historien Luc Steinmetz.
Ça veut dire que les Calédoniens, et je signale, qu'à ce moment-là, tous les Kanaks votent, et les Mélanésiens à cette époque, constituent 53% du corps électoral, c'est-à-dire qu'ils ont eux aussi répondu dans les mêmes proportions, 98% de oui au maintien de la Calédonie dans la France. Pourquoi c'est important? Parce que voyez-vous, en 1853, le 24 septembre, c'est vrai que ça a été un acte unilatéral. La France a pris possession dans le droit international de l'époque. Tandis qu'en 1958, ça donne à l'acte de prise de possession de 1853 un caractère bilatéral. Ça veut dire que cette fois-ci, ce sont les Calédoniens ou les Kanaks sont majoritaires qui veulent rester français. Ça veut dire que ça efface en quelque sorte l'acte unilatéral qui avait été posé par Février des Pointes en 1853.
Aujourd'hui, le 24 septembre a pris au fil des ans une connotation différente, notamment depuis la revendication d'indépendance. En 2004, le gouvernement en a fait la fête de la suite WNT sous l'impulsion de Dewi Gorodé. Cette année, le gouvernement n'a pas organisé d'événement pour cette fête de la citoyenneté. Le comité 150 ans après organisait lui aujourd'hui un rassemblement à Nouméa, place du Moïcab et de la Moselle. Ce matin, près de 300 personnes avait fait le déplacement pour assister aux coutumes et prises de parole. Le public était plus nombreux cet après-midi pour les animations musicales. Écoutez Sylvestre Nwelu, le président du comité 150 ans après.
On est agréablement surpris, il y a du monde qui est arrivé, puis on s'en est pas aperçu parce que c'est dans le calme. L'organisation, donc là, tout ce qu'on a pu réaliser donc, a permis donc, de remettre du monde quand même. Et puis dans le calme, quoi. Pour nous c'est bon, quoi.
Et notez que c'est pour cette manifestation, les organisateurs avaient interdit la consommation d'alcool sur le site du Moïcab. Selon la police, près de 750 personnes étaient sur place aujourd'hui. Une déclaration unitaire pour réaffirmer la volonté de voir accéder la Calédonie à la pleine souveraineté dans le cadre des discussions et négociations avec la France. Elle émane du nouveau FLNKS, du MNIS, de l'EPKNC et du Sénat coutumier. Ils ont voulu marquer de façon symbolique, Elisabeth Noir, la commémoration du 24 septembre.
Cette déclaration unitaire à l'origine devait être faite place du Moïcab, mais le Haut-Saharien a fait savoir que l'autorisation accordée au comité 150 ans après était pour une manifestation culturelle, mais en aucun cas politique. C'est donc au siège de l'UCE que se sont retrouvés les participants, en l'occurrence les représentants du nouveau FLNKS, le MNIS, le PKNC et l'instance autochtone de discussion qui réunit le Sénat coutumier et les conseils coutumiers. Ils ont rendu publique une déclaration unitaire de 4 pages qui n'apporte en fait aucun élément nouveau et qui est élue par Dominique Fauchy, le secrétaire général de l'UCE. Elle commence par un rappel historique avant de réaffirmer les positions que chacun connaît au travers de divers considérants. Les auteurs de cette déclaration indiquent ensuite qu'ils exigent le respect du processus irréversible de décolonisation prévu par l'accord de Nouméa pour arriver à la pleine souveraineté. Il prie la puissance administrante d'engager une discussion sincère sur la réparation des préjudices historiques subis par le peuple kanak. Et enfin, il déclare un certain nombre d'exigences.
Déclare leur engagement à faire aboutir l'accession du pays à la pleine souveraineté dans le cadre des discussions et négociations avec la puissance administrante. La nécessité de maintenir les élections provinciales en novembre 2025 au plus tard, afin de redonner une légitimité aux représentants de la population au sein des institutions. Leur engagement à créer les conditions pour élaborer un projet de société inclusif, solidaire et durable, avec la prise en compte de la légitimité coutumière et la souveraineté des chefs-lieux avec l'ensemble de la société civile, les autorités religieuses et les autorités coutumières. Leur engagement à poser le fondement d'une unité nationale pour contribuer à une prospérité du développement du pays et à une stabilité durable en matière d'ancrage dans la région pacifique. Que l'indépendance sera proclamée dès que les conditions seront réunies au plus tard avant les élections présidentielles de 2027. Leur engagement à continuer d'œuvrer avec les signataires de cette déclaration, les organisations qui partagent l'orientation de cette déclaration.
Une déclaration de principe qui sera transmise aux élus calédoniens, aux représentants de l'État, aux groupes parlementaires ou encore aux pays de la région et au comité des 24. Reste que ce 24 septembre 2025 avait été présenté à plusieurs reprises comme la date d'une proclamation unilatérale d'indépendance. Ce n'est pas le cas, reconnaît Dominique Fauchy.
C'est le calendrier qu'on s'était fixé au côté du FLNKS. Maintenant, on n'a plus d'interlocuteur au niveau de l'État. Donc, par voie de conséquence, on constate tout simplement qu'on ne pouvait pas y aller jusqu'au bout. Tenir le calendrier qui a été fixé. Apparemment, ils sont plus en train de traiter la mise en place du gouvernement. Hein. Donc, on ne sait pas qui c'est l'interlocuteur, si c'est le Premier ministre qui va reprendre le dossier calédonien, le MOM. On est un peu dans l'expectative.
On retient de cette déclaration unitaire la volonté de voir accéder la Calédonie à la pleine souveraineté, la volonté que les élections provinciales soient maintenues en novembre 2025 et que l'indépendance soit proclamée au plus tard avant la présidentielle de 2027. Le Palika et l'UPM auraient été approchés pour s'associer à cette démarche, mais ils n'auraient pas donné suite.
Le SMTU procède à un certain nombre de modifications sur le réseau à partir du 1er octobre. Il met en œuvre des ajustements d'horaires et de dessertes sur les 8 lignes en circulation, Jean-François Bodin.
8 lignes, c'est beaucoup moins qu'avant les émeutes, mais le syndicat mixte des transports urbains adapte son activité aux conditions d'équipement, dont beaucoup ont été détruits pendant les émeutes, mais aussi évidemment aux conditions des finances qui sont les siennes. Le réseau n'avait repris qu'en décembre 2024 et depuis 6 mois, le SMTU suit de très près la fréquentation de ces lignes. Les ajustements qui interviendront le 1er octobre s'inscrivent donc dans la logique et tiennent compte des possibilités du moment, explique Yannick Fèvre, c'est le nouveau directeur général du SMTU. Il était en direct dans le journal de la mi-journée.
La première mise en place était vraiment de remettre un service de transport en commun. On savait que c'était pas idéal, mais on l'a fait avec les moyens et le contexte économique du moment. On a choisi de desservir les heures de pointe pour pouvoir permettre aux travailleurs d'aller travailler. Et on sait qu'aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, et c'est ce qui est ressorti de l'analyse, c'est que là, on va vers quelque chose de plus normal, on va proposer un service continu sur toute la journée. On reste sur 8 lignes structurantes, on a rajouté 2 lignes, mais qui sont des lignes d'heure de pointe, donc on ne les compte pas vraiment structurantes pour l'instant, qui permettront de mieux desservir les quartiers. Mais ces 8 lignes structurantes, on a renforcé les horaires, on a des horaires aujourd'hui qui seront continus sur toute la journée, de 5h du matin à 18h30 le soir.
Et parmi les extensions prévues, celle de la ligne D4 à Dumbéa, qui va de nouveau desservir les quartiers de Koutio et de Yaoué. Et tous ces ajustements ont également été prévus pour faciliter le transport des élèves pendant les périodes scolaires.
On a travaillé avec le vice-rectorat pour bien récupérer les horaires de sortie et d'entrée dans les collèges et lycées. Et on a adapté nos plages horaires pour pouvoir être justement dans les temps pour les collégiens et les lycéens qui veulent utiliser le réseau Taneo.
Ces évolutions se font sans augmenter la charge financière du SMTU qui confirme sa politique tarifaire, même si le billet à 500 francs suscite des mécontentements. Yannick Fèvre a tenu à apporter des précisions.
La gamme tarifaire, elle bouge pas aujourd'hui, elle reste la même. Ce qu'il faut expliquer, le 500 francs, c'est le prix d'appel. C'est-à-dire, si on prend un ticket unique, oui, effectivement. Mais le public ciblé était les usagers fréquents. Et si vous prenez les passes, que ce soit jeunes, seniors, solidaires, par exemple, on a un ticket qui est à 180 francs pour quelqu'un qui prend fréquemment la ligne. Pareil pour un travailleur, celui qui prend le pass Liberté Plus, c'est 12 000 francs le plafond, et donc s'il y va 5 jours par semaine, ça lui fait un ticket à 272 francs. On explique bien aux usagers qu'il faut vraiment qu'ils aillent vers ces passes-là, qui sont des passes qui sont avantageux au niveau tarifaire, mais c'est vrai que tout le monde n'a pas pris encore cette habitude.
Yannick Fèvre, le nouveau directeur général du SMTU, est parmi les autres ajustements qui entreront en vigueur au 1er octobre, l'ouverture en continu de 6h30 à 16h30 de l'agence Moselle.
Avant de marquer une première pause dans ce journal, vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu. Quelles sont les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC concernant le gel du corps électoral? Nous en parlerons demain en compagnie de Raphaël Romano, le président de l'association Un cœur, une voix, qui a déposé cette question prioritaire de constitutionnalité. Raphaël Romano qui sera notre invité du matin demain à 7h30. Et puis apprendre l'entreprise dès l'Elysée. Le lycée, c'est un projet pilote mené au lycée Jules Garnier, avec des classes de seconde, première et terminale. Et il pourrait aussi bientôt se déployer dans plusieurs endroits du territoire grâce à un bus itinérant. Nous en parlerons demain dans les jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu. Jean-François Bodin recevra notamment Julie Micheli, chargée de mission pour le lien avec les entreprises au vice-rectorat et professeure d'éco-gestion au lycée Jules Garnier. Elle sera accompagnée également par une élève et un chef d'entreprise engagé dans ce projet. Il est pratiquement 18h sur Radio Rythme Bleu, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant. L'actualité en métropole, dans le monde et dans la région Pacifique.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Du 3 au 5 octobre, rendez-vous à la Moselle pour la 15e édition de la Foire du Pacifique. Une édition spéciale anniversaire avec le grand retour des pays du Pacifique, Australie, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Wallis et Futuna, Vanuatu. 3 jours de fête non-stop, spectacles, animations, bonnes affaires chez plus de 250 exposants et des cadeaux à gagner. La Foire du Pacifique, un événement incontournable. Info et programme complet sur la page Facebook pacificfair.nc.
Votre tranquillité d'esprit avant tout. Pour recevoir toutes les informations importantes sur les coupures, le montant de votre facture et la date d'autorelève, mettez à jour vos contacts e-mail et numéros de téléphone. Contactez-nous à clientèle@cde.nc ou au 05 01 25. Calédonienne des eaux, l'eau qui nous unit.
Info Soir, Lionel Sabot.
C'est l'une des images de la journée à l'étranger, l'image de deux présidents totalement opposés dans la façon de régler les conflits, notamment celui au Proche-Orient, côte à côte en marge de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Donald Trump et Emmanuel Macron se sont retrouvés après leur discours aux Nations Unies et quelques heures seulement après la reconnaissance d'un État palestinien par la France. Écoutez cet échange entre Emmanuel Macron et Donald Trump. C'était il y a quelques heures à New York.
Le jour d'après à Gaza, pour stabiliser le territoire, il nous faut une perspective politique. C'est pourquoi nous avons pris cette décision sur la reconnaissance.
Eh bien, je dois dire que je suis du côté d'Israël. J'ai toujours été du côté d'Israël, vraiment toute ma vie. Nous allons trouver une solution. Ce sera une solution qui, espérons-le, conviendra à tout le monde. Mais il est temps que ça s'arrête. Nous allons avoir cette réunion très importante prochainement. Nous devons régler ça, nous devons récupérer les otages et mettre fin à la guerre.
Échange de points de vue entre Emmanuel Macron et Donald Trump il y a quelques heures à New York. Par ailleurs, le président américain s'est dit confiant pour l'Ukraine. Selon Donald Trump, l'Ukraine pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. Déclaration saluée évidemment par le président ukrainien Volodymyr Zelensky qui évoque un grand tournant. Donald Trump qui a également évoqué les violations des espaces aériens de plusieurs pays européens par des avions militaires russes. Le président américain n'y va pas par quatre chemins puisqu'il estime que les pays de l'OTAN concernés devraient abattre les appareils russes. En métropole, la composition du nouveau gouvernement se fait toujours attendre. Le Premier ministre Sébastien Lecornu doit recevoir cette nuit pour nous l'intersyndicale qui se dit prête à lancer une nouvelle journée de grève et de manifestation si ses revendications ne sont pas entendues. Sébastien Lecornu recevra ensuite le patronat. France Télévisions, épinglée par la Cour des comptes, elle pointe des déficits et des avantages surdimensionnés avec un déficit de plus de 80 millions d'euros entre 2017 et 2024. La Cour des comptes appelle à des réformes structurelles majeures pour redresser les finances malgré des dotations publiques de près de 3 milliards d'euros par an. Selon les sages de la Cour, le bateau France Télévisions tanque dangereusement. Barthélémy Philippe pour Europe 1.
France Télévisions est au bord du gouffre avec des capitaux propres insuffisants pour assurer sa pérennité. Il faut dire que le groupe public est un mastodonte, près de 9000 salariés qui bénéficient d'un cadre social généreux issu d'un accord collectif de 2013 que dénonce la Cour des comptes. À France Télévisions, les privilèges sont multiples. Le salaire brut moyen s'élève à plus de 6000 euros par mois contre 3600 euros dans le privé. Les indemnités de licenciement sont supérieures au droit commun. Les frais de mission exorbitants, 46 millions d'euros dépensés l'an dernier, avec des irrégularités comme des nuitées d'hôtel à des prix supérieurs au plafond autorisé. Il y a aussi l'utilisation excessive des taxis, 4 millions d'euros de frais l'an dernier. Des cartes carburant généreusement dotées, 120 litres par jour, la cinquantaine de véhicules de fonction mis à la disposition des cadres du groupe sans que cela se justifie toujours, et un CSE royalement subventionné, propriétaire de plusieurs résidences de vacances à Cannes et Trouville.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Actualité judiciaire toujours en métropole avec la suite du procès de Cédric Jubilard devant les assises du Tarn. Hier, l'administratrice en charge de la défense des intérêts des enfants du couple Jubilard a été auditionné. Les deux enfants Jubilard sont aujourd'hui âgés de 11 et 6 ans. L'aîné, Louis, qui se dit convaincu de la culpabilité de son père. Après la disparition de sa maman, il avait affirmé aux enquêteurs avoir entendu ses parents se disputer. Hier à la barre, c'est donc l'administratrice de ses enfants qui a été entendue. Charles Huillet pour Europe 1.
Cécile Agri-Verdun, c'est son nom, a évoqué les propos des enfants du couple, notamment ceux d'Elia, 6 ans. Demandez à mon papa où est ma maman, s'il vous plaît. L'administratrice a également parlé de Louis, l'aîné, âgé de 11 ans. Louis m'a dit être convaincu de la responsabilité de son père. Il est persuadé du décès de sa mère et veut que son père dise où elle est. Voici ce qui a été évoqué devant une salle en état de sidération et devant des avocats de la défense qui ont reproché à cette administratrice d'avoir un parti pris. Encore heureux, clame Laurent Boguet, l'avocat des enfants.
L'administratrice, ne vous attendez pas à ce qu'elle fasse autre chose que de recueillir et de restituer la parole de l'enfant. Enfin, c'est comme ça dans la plupart des dossiers, et il faudrait que dans le dossier Jubilard, nous soyons pratiquement taiseux. La belle affaire.
Une administratrice qui s'est aussi directement adressée à l'accusé, terrée dans son box. La première personne qui peut aider vos enfants à bien grandir, c'est vous, monsieur Jubilard.
Charles Lui est du service police-justice d'Europe 1. L'actualité dans la région Pacifique, le Vanuatu et la Chine renforcent leur coopération sécuritaire. En fait, dans le nouvel accord signé entre les deux pays, la Chine continue d'équiper le Vanuatu comme elle le fait depuis déjà plusieurs années. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Ce pas supplémentaire dans la coopération dite sécuritaire a été franchi en fin de semaine dernière lorsque le ministre Vanuatu de l'Intérieur, Andrew Napwat, a été reçu à Pékin par son homologue chinois Wang Chaoyang. Suite à ces entretiens, la Chine a notamment décidé de fournir à Port Vila 20 motos de police supplémentaires, de même que 20 drones et des systèmes de télécommunication de type Interpol. Le montant de ce don a été estimé à près de 46 millions de nos francs et il vient donc s'ajouter aux offres similaires que Pékin a déjà faites dans le passé au Vanuatu. Dans un communiqué conjoint, les deux ministres ont également convenu, je cite, de renforcer nos échanges à tous les niveaux et de collaborer pour améliorer nos capacités communes de maintien de l'ordre. Il s'agit surtout de faire progresser le partenariat stratégique qui unit nos deux pays, a déclaré Andrew Napwat. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Et 18h et pratiquement 7 minutes sur Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal dans un instant. L'actualité sportive et la météo de votre jeudi.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et on va parler de force athlétique dans ce journal avec le Calédonien Axel Raymond qui est de nouveau en préparation pour les mondiaux de la discipline. Michael Juneski.
Le vice-champion du monde Masters 2024 tentera à nouveau de briller en Afrique du Sud au mois d'octobre en 2024. Déjà au pays des Springboks, il était parti par ses propres moyens pour revenir avec une prestigieuse médaille d'argent. Cette année, les conditions se sont améliorées sur le territoire pour sa préparation, mais le niveau sera relevé le jour J.
Ce que je me dis avant le départ, c'est que... Bon, après, je me suis dit la même chose au championnat du monde en 2024 et j'ai réussi à faire une belle performance. Ce que je me dis là, c'est qu'il y a un très beau plateau avec un ancien champion du monde Open, un ancien champion du monde Master, le recordman du monde du soulevé de terre et un Américain qui est très fort. Mais, comme je dis... Tant que la compétition n'a pas commencé, on a toutes nos chances. Comparé à l'année dernière, déjà, je peux m'entraîner avec un coach présent et dans ma salle, parce que l'année dernière, c'était compliqué. Mais là, cette année, il y a mon coach titulaire, Kenny Wendt, qui est en déplacement. Donc, c'est Julien Moala, qui est mon partenaire d'entraînement et mon partenaire de compétition aux Jeux du Pacifique, qui s'occupe de moi. Donc, Kenny nous envoie les programmes à distance et Julien s'occupe de finaliser tous les petits détails. C'est une autre méthode de préparation. Le coaching est un peu plus, on va dire, un peu plus virulent. C'est rigolo à dire, mais voilà, c'est deux méthodes de travail différentes, mais ça fait un complément et je trouve que c'est vraiment, vraiment très agréable d'avoir ce complément.
Axel Raymond qui, pour des performances individuelles et avec le minimum d'aide, peut toujours compter sur un solide travail d'équipe.
Aujourd'hui, on a eu une grande solidarité, mais c'est vraiment un truc de fou. J'ai mon club Tagalo Ajim qui a décidé d'organiser des ventes. Ils ont fait un travail monstrueux pour pouvoir récupérer des fonds pour les championnats du monde. Donc on a fait fait une vente de plats sur un samedi. Ça m'a énormément aidé et je les remercie parce que c'est vraiment une grande famille, Tagaloagim. C'est magnifique et j'ai aussi Fitness Boutique et Fitness Park qui me soutiennent sur toute la préparation, tous les produits de récupération. Sans toute cette solidarité-là, je ne pourrais pas arriver à l'objectif. Donc maintenant, je n'ai pas le droit de me louper, je crois. Un grand merci quand même à ma petite famille qui me soutient, ma fille, mon fils, ma femme qui sont tout le temps derrière moi, qui continuent à me pousser malgré les déplacements, malgré les soucis financiers pour pouvoir partir. Cet amour aussi me donne encore plus envie de continuer et de ramener de belles choses pour eux.
Axel Raymond qui tentera à nouveau de terminer sur le podium mondial de force athlétique en Afrique du Sud à Cape Town. Il sera engagé mercredi 15 octobre prochain pour nous en Master 1 chez les moins de 93 kilos.
Du football sur la scène internationale, Mickaël, puisque l'on joue demain la première journée de la Ligue Europa.
Oui, et du côté des clubs français, l'OGC Nice fera son entrée en lice contre un sérieux client, l'AS Rome. Coup d'envoi de la rencontre ce jeudi donc à 6h, heure de Nouméa. La suite des matchs et vendredi matin, deux nouvelles équipes de Ligue 1 qui débuteront l'aventure. Les Lillois, quelques jours après leur défaite dans le derby du Nord à Lens 3-0, vont tenter de se refaire une santé face à une équipe venue d'encore plus loin au Nord. Ils recevront en effet les Norvégiens du Brann Bergen. Match à suivre dès 3h45 ce vendredi. Et de son côté, l'Olympique Lyonnais se déplacera sur le terrain des Néerlandais du FC Utrecht. Rencontre à suivre à partir de 6h vendredi toujours.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Pierre.
Cette nuit, le ciel restera étoilé de la pointe nord à la côte est. Ailleurs, les passages nuageux seront plus fréquents avec quelques gouttes possibles sur le sud-ouest en début de nuit. Le vent de secteur sud atteindra généralement 10 à 15 nœuds. Les températures de la nuit seront en baisse et se rapprocheront des valeurs de saison de 16 à 20 degrés près des côtes, localement 12 à 15 degrés dans l'intérieur des terres et aux îles Loyauté. Demain matin, pas grand chose à dire. De belles éclaircies s'imposeront sur le sud-ouest et l'extrême sud de la grande terre. Ailleurs, le soleil dominera. Le vent de sud à sud-est soufflera autour de 10 nœuds. Niveau marée pour nos amis les pêcheurs, elle sera haute ce soir à 21h23. Elle sera basse demain matin à 3h37 pour remonter à 9h55.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.